a choisi de prendre un angle très particulier qui est la réglementation Dublin qu'un certain nombre de vous connaissent. C'est une réglementation européenne qui porte le nom d'une capitale et qui est devenue un vrai cauchemar pour beaucoup de migrants qui nous disent même que maintenant, quand ils pensent à l'Irlande, c'est vraiment douloureux à cause de cette réglementation. Cette réglementation, elle a été créée dans les années 90 pour permettre normalement un équilibrage entre les pays de l'accueil des migrants. Sauf que ça n'a pas fonctionné du tout de cette manière-là. Et comme les routes d'entrée en Europe sont toujours un peu les mêmes par les pays du Sud, et que les migrants, quand ils franchissent ces frontières du Sud, on prend d'une manière souvent involontaire de leur part leurs empreintes et qu'ils continuent leur chemin vers un autre pays, ils se retrouvent à un moment dans le pays où ils voudraient demander l'asile, mais coincé par cette réglementation qui dit que vous devez, comme elle l'expliquait dans la vidéo, demander l'asile dans le premier pays où vous avez déposé vos empreintes. Ça peut paraître quelque chose de tout à fait simple et anodin, un règlement parmi d'autres, mais ça produit énormément de souffrance de la part de ces personnes. Et je vais laisser la parole à Michel, on est tous les deux dans la mobilisation diocésaine pour l'accueil de l'étranger. Et on essaye d'intervenir pour soulager une part de ces souffrances, mais les élections européennes, c'est une super occasion de faire bouger la cause. Nous, on peut intervenir sur quelques conséquences, mais la cause, si elle ne bouge pas, et une des premières décisions qui devra être prise par les nouveaux parlementaires européens, c'est qu'ils devront se coltiner cette question-là, parce qu'elle est restée en suspens, elle n'a pas été encore décidée, et ils vont devoir décider de l'avenir de ce règlement-là. Aujourd'hui, avec la configuration du Parlement et des opinions publiques dont on a parlé, c'est pas gagné. Voilà, on a besoin vraiment de mobilisation.
Bien, je vais continuer. Vous dire que je fais partie de la pastorale des migrants. Je remplace Nicolas Oudot, qui pour des raisons personnelles n'a pas pu être là. Alors, la pastorale des migrants, qui a été mise en place par la volonté de notre père évêque en juin 2015, au début ne s'occupait pas des Dublinais particulièrement. Et le 12 décembre 2018, l'État a décidé que tous les Dublinais de la région Bourgogne-Franche-Comté devaient être accueillis à Besançon, et plus particulièrement au Prada d'École Valentin. Ce Prada École Valentin, c'est un ancien Formule 1 qui a été racheté par Adema et donc qui est géré par une société privée. Donc, en conséquence de quoi, tous les Dublinais passeront systématiquement par la case École Valentin. Et maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est un petit peu, c'est le vécu qu'au niveau de l'accueil de Palante, eh bien, nous avons pu voir comment les choses se passaient, parce que depuis un an, grosso modo, nous avions jusqu'à présent des demandeurs d'asile qui venaient régulièrement, qui nous étaient confiés par la pastorale des migrants, et qui maintenant ne se viennent plus chez nous. Par contre, nous avons systématiquement des Dublinais, avec les conséquences que voici. Alors, ces personnes dites Dublinais ne sont généralement que de passage. Ce qui veut dire que le premier problème qui se pose, c'est qu'on a du mal à établir un lien personnel avec ces gens. On ne connaît pratiquement pas leur histoire. Ils sont là, nous en avons qui passent chez nous 2 jours, 3 jours, d'autres 3 semaines. Ce qui fait que c'est très difficile d'avoir un lien humain avec ces personnes. Et puis ces personnes, lorsqu'elles sont au Prada, elles ne vivent pas comme vous et moi. Elles ont toujours avec cette anxiété de se dire, mais peut-être bien que demain matin, la police va venir me chercher et je serai expulsé. Ils ne savent pas ni le jour, ni l'heure. Ils ont une contrainte lorsqu'ils sont au Prada. La contrainte, c'est tous les matins d'aller à la gendarmerie pour signer leur feuille de présence. Vous imaginez qu'ils sont, donc, pour ceux qui connaissent le Formule 1 donc, d'école, de Valentin, eh bien, il faut qu'ils aillent jusqu'à la gendarmerie d'école. Ça fait un certains trajets à faire, et ils doivent le faire et être présents pour 8h30 le matin. S'ils ne le font pas, eh bien ils sont déclarés en fuite. Déclarés en fuite, ça veut dire qu'ils perdent toutes les aides, ça veut dire qu'ils sont également en situation très périlleuse pour eux. Et s'ils partent, eh bien ils deviennent clandestins avec tout ce qui est derrière. Alors sur Besançon, la pastorale donc des migrants, elle accueille ces personnes dublinées. Alors elle les accueille de différentes manières. Donc je viens de vous en parler, à l'abri de Nuit de Palante. Ils viennent à l'abri de Nuit de Palante parce qu'ils n'ont pas été encore pris en compte par le Prada. Donc il y a un petit moment entre le moment où ils arrivent à Besançon et puis le moment où ils sont accueillis officiellement par le Prada. Et pour éviter qu'ils soient à la rue, eh bien il y a quelques chambres qui sont mises à leur disposition. Il y a également des journées et des week-ends fraternels qui sont organisés par les différents collectifs qui travaillent sur et autour de la pastorale des migrants. Ces collectifs, ils ont le souci d'inviter tous les gens dont ils s'occupent, les gens qu'ils accueillent, mais également tous les gens accueillis par les autres groupes, pour qu'à l'occasion de ces journées particulières, eh bien, ces hommes et ces femmes, quelquefois les enfants, s'il y en a, eh bien, puissent vivre autre chose que de vivre uniquement entre leurs quatre murs, de leur petite chambre de Formule 1, et puis également leurs soucis. Il y a également la pastorale des migrants, elle intervient également en les accompagnant au français, l'acquisition du français. Mais là, c'est très difficile. Il faut imaginer que ces personnes, avant de venir chez nous, ben, elles ont peut-être déjà passé 3 mois, voire même plus, soit en Italie, soit en Allemagne. Ce qui veut dire que elles ont déjà commencé à s'initier à une langue et que là, on leur demande à nouveau de commencer à nouveau le français. Je peux vous dire que ça ne fait pas partie de leur priorité. Et puis, il y a également un accompagnement donc, dans les parcours administratifs, à savoir que l'équipe qui est autour de Nicolas eh bien, est très présente pour pouvoir les accompagner dans toutes les arcanes un petit peu de la procédure administrative. Alors, la vie d'un Dublin au Prada. Donc, comme je vous l'ai dit, les demandeurs d'asile sont souvent signés à résidence avec une obligation journalière de pointage dans un commissariat. On en a parlé. La police peut arrêter les exilés au petit matin. Petit matin, la police, elle débarque très tôt pour être sûre de pouvoir trouver les personnes dont elles doivent s'occuper. Et puis, on nous a dit, bah, tant pis si la valise n'est pas prête. Savoir que si la personne qui est l'objet, qui fait l'objet d'une venue de la police n'a pas sa petite valise toute prête, la police n'attend pas. Et il y a des personnes qui laissent toutes leurs affaires dans la petite chambre. Forcément, cet ancien hôtel, qui est un Formule 1, ne propose que des petites chambres. Et avec un lit ou deux lits, peu de place pour leurs effets personnels. Puis il y a un gros problème. C'est pas un problème qui est lié à la société qui gère le Formule 1. C'est un problème dû au Formule 1 lui-même. Savoir qu'il y a un sentiment d'insécurité qui est en place. Il y a des douches qui sont à l'étage. Imaginez les hommes et les femmes qui partagent la même douche sur le même étage. Le soir, les femmes qui sont seules sont embêtées par leurs collègues masculins parce que la nuit, il n'y a personne. Ils sont uniquement entre eux dans ces Formule 1. Il y a également un petit problème de vie quotidienne, à savoir que lorsqu'ils veulent faire une lessive, bien une lessive leur coûte au bas mot 4 euros chacun. Puis également, un autre problème, c'est qu'il n'y a pas d'espace de convivialité dans cet établissement-là. Savoir que ces personnes ont uniquement leurs murs, sont très peu en relation les uns avec les autres parce qu'il n'y a pas de lieu de prévu pour cela. Au niveau alimentation, il y a des cuisines à l'étage. Il y a très peu de vaisselle personnelle. Et puis, ils ont des problèmes pour stocker la nourriture... qu'ils ont à partir donc des différentes collectivités, les colis alimentaires par exemple. Il y a beaucoup de vols de nourriture. Et puis, il y a également ce centre-là, il est loin des centres d'accueil pour les repas du midi. C'est-à-dire qu'ils doivent descendre en ville. Et il y a problème de bus. Alors en conclusion, et je vais en finir là-dessus, je vais vous parler d'un cas particulier que nous sommes en train de vivre. Hier soir, mon épouse et moi, nous étions à l'accueil à Palante. Et après le repas, comme la soirée s'annonçait belle, nous avons conduit Abou Dakar, qui est un Dublinais italien, d'Italie, pardon, originaire de Guinée. Nous l'avons conduit à l'esplanade de la chapelle des Buis au belvédère de Montfaucon. Cet homme, depuis 2 jours, vivait très mal, suite à des problèmes administratifs. Et il n'a cessé de nous dire durant la soirée, « Ah vraiment, c'est une belle soirée !» et de s'extasier devant la beauté de la région. En se quittant 22 heures, il nous a remerciés en nous disant dans son français approximatif, « Ah ce soir, je suis heureux, une belle soirée !» Visiblement, cela faisait longtemps que cela ne lui était pas arrivé. Et quand on sait d'où il vient et où il va, nous pouvons être fiers de ces petits moments d'humanité que la pastorale des migrants offre à ces hommes et à ces femmes et enfants. Elle est bien dans son rôle en plaçant l'humain au cœur de son action. Et je terminerai en disant que la pastorale des migrants du diocèse de Besançon souhaite la disparition du règlement de Dublin parce que la mécanique de ce règlement n'atteint pas les objectifs gouvernementaux. Quand on regarde un petit peu les chiffres qui nous sont proposés, on s'aperçoit que finalement, il y a très très peu de personnes dublinées qui retournent dans leur pays. Puis également, on s'aperçoit à travers les différents exemples que je vous ai donnés, là, de vie, c'est que la mécanique de ce règlement génère, au niveau européen, un manque d'humanité dans l'accompagnement des demandeurs d'asile qui sont sous cette procédure. Alors oui, vraiment, cette procédure est une procédure qui coûte très cher, qui du point de vue humain est inadmissible et qui n'est sans avenir pour l'Europe et pour l'humanité.
Alors merci pour ce premier, comment dirais-je, ancrage local dans des réalités et dans une façon aussi de vivre l'Europe et pour le coup une absurdité réglementaire, en tout cas une inefficience d'un dispositif européen. Voilà, donc on va continuer par un deuxième éclairage avec Manon Comacle qui est coordinatrice régionale du Mouvement Rural des Jeunes Chrétiens.
Bonsoir, donc j'interviens ce soir au nom du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne pour vous présenter notre perspective de jeunes ruraux sur les enjeux européens de demain. Comment les décisions européennes, je cite, qui sont lointaines, techniques, inefficaces, ou qui peuvent paraître comme telles, peuvent contribuer à la mise en place d'une société qui nous semble juste à nous, jeunes ruraux. C'est ce que je vais essayer de vous exposer. Et pour y répondre, je vais vous montrer une vidéo qui a été réalisée à Besançon l'année dernière, donc par le MRJC, et dans laquelle on interroge des jeunes du MRJC et du KLJB, qui est son homologue allemand, pour leur demander ce que c'est pour eux l'Europe de demain.
Construire une politique d'accueil et d'intégration des personnes migrantes et réfugiées en milieu rural. Pour accueillir des travailleuses, des travailleurs, des familles et revitaliser nos territoires, développons nos capacités d'accueil. Pour nous, cette politique doit prendre place dans un monde où les frontières s'ouvrent et où les murs tombent.
Une politique agricole commune qui régule les marchés afin de permettre aux paysans et paysannes de vivre dignement de leur travail en vendant leurs produits à des prix justes et rémunérateurs. Nous proposons de plus que les aides soient conditionnées, non pas à l'hectare, mais au nombre d'emplois directs créés.
Construire une politique européenne ambitieuse de développement des territoires ruraux. À l'image du FEADER, il faut soutenir le développement des territoires ruraux respectueux de l'environnement, résilients, inclusifs et solidaires envers les personnes précaires.
Créer des échanges et des coopérations européennes et internationales au niveau local pour permettre à toutes et tous de s'ouvrir à l'interculturalité, quelle que soit son origine sociale. Favoriser la rencontre et les dialogues avec d'autres cultures et d'autres religions. Parler de thématiques européennes qui rejoignent les jeunes dans leur réalité de vie. Favoriser les échanges pour les apprentis, les filières pro, les filières courtes, pour les jeunes ayant moins d'accès à l'international.
Donc cette vidéo, vous l'avez vue, elle aborde 4 enjeux sociétaux, plus particulièrement 4 enjeux pour les territoires ruraux dans lesquels nous souhaitons vivre, c'est-à-dire réformer la PAC pour qu'elle soutienne mieux une agriculture paysanne, c'est-à-dire impulser une politique ambitieuse de développement des territoires ruraux, c'est-à-dire aussi favoriser les échanges et les coopérations internationales pour s'ouvrir à l'interculturalité, pour créer un sentiment d'appartenance européenne également, et donc favoriser ces échanges, notamment pour les jeunes qui n'y ont pas accès ou peu accès en ce moment, c'est-à-dire ceux qui ne font pas d'études longues. Et puis, accueillir des personnes réfugiées et migrantes en milieu rural. Donc ça, ce sont des orientations qui nous tiennent à cœur au MRJC, qui répondent à nos valeurs et au modèle de société que l'on souhaiterait construire idéalement. Et ce sont aussi des orientations dans lesquelles l'Europe peut avoir un rôle à jouer. Donc l'Europe, ça peut être des outils, des moyens qui permettront à cette société que l'on rêve d'advenir. Et puis c'est aussi un acteur important dans la construction de la paix, c'est ce qui a été dit plus tôt, et c'est ce que j'aimerais aborder maintenant. L'année dernière, donc en 2018, du 2 au 5 août, le MRJC a organisé avec son homologue allemand, le KLJB, à Besançon, un festival international pour la paix. Ce festival, il était organisé pour commémorer le centenaire de la fin de la guerre 14-18, et donc pour réfléchir ensemble, avec des Allemands, et avec des Européens et des internationaux en général, aux conditions de construction de la paix. Donc c'est un festival qui a duré 5 jours, lors duquel des gens sont venus de toute la France, de toute l'Europe, et puis un petit peu au-delà, pour participer à des conférences, à des ateliers, et pour réfléchir cet idéal de la paix, comment est-ce qu'on pouvait l'atteindre. Et ce, autour de grosses thématiques, donc comme l'agriculture, le travail, la religion. D'ailleurs, Monseigneur Bouyret a célébré une Eucharistie en fin de festival. Voilà. Et donc, à la fin de ce festival, nous avons réalisé un traité de paix symbolique qui a été ratifié par nos deux organisations et dans lequel on porte des orientations, des souhaits pour l'avenir, pour la construction d'une Europe ou d'un monde avec plus de paix, qui sont peut-être un peu utopiques, mais qui nous semblent aussi nécessaires, comme l'arrêt de la production d'armes, le droit d'asile, les énergies renouvelables, la souveraineté alimentaire, une fiscalité plus juste, etc. Merci pour votre attention.
Sans vous prendre au dépourvu, Monseigneur, vous voulez dire juste peut-être deux mots pour rebondir sur ces deux éléments. Avant de vous donner la parole, je me permets juste, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment, dans nos générations plus anciennes, que la paix est oubliée par la jeunesse, et je trouvais ça un peu étonnant, stimulant, peut-être réconfortant de voir comme ça que les jeunes ne relèguent pas la paix à quelque chose de loin, mais au contraire. Voilà.
Alors, sur la question du règlement de Dublin, je pense que le constat est assez unanime sur le fait de dire qu'il faut réformer ce système. Après, ce qui n'est pas facile, c'est qu'entre les pays européens, il y a de telles différences et divergences sur la question des réfugiés et de l'accueil des migrants de façon plus générale, mais aussi sur cette question-là. De toute façon, la question on est obligé de se la poser là après l'échéance électorale, parce qu'on voit bien que le système a été conçu dans un autre cadre et qu'il ne fonctionne pas. Voilà. Et comme vous l'avez rappelé, d'ailleurs, peu de gens dublinés sont ensuite... Mais ils sont dans une situation de précarité inutile. Donc ça, c'est une première chose. Même s'il y a aussi des possibilités, moi j'ai connu quelques exemples dans le nord de la France, là, où des gens arrivent à être dédublinés. Et donc à ce moment-là, on peut entamer une procédure de demande d'asile en France. Sur les propositions du MRJC, je trouve effectivement que c'est très bien de pouvoir placer ça dans un cadre qui soit plus large, et puis d'amener cette réflexion à travers des échanges avec d'autres jeunes, comme le mouvement allemand correspondant, parce que c'est ainsi qu'on peut progresser. Sur la question de la politique agricole commune, c'est une des politiques les plus emblématiques de l'Union européenne en termes de financement, parce que les deux grandes politiques qui sont financées en Europe, c'est la politique agricole et les fonds européens de développement qui sont là pour corriger les inégalités territoriales, les inégalités régionales, les fonds structurels, les fameux fonds structurels. Vous savez pas que l'Europe n'a pas un budget comme la France, enfin comme les autres pays, annuel. C'est sur une période de 7 ans. Et le prochain budget, on est déjà en discussion là-dessus, il doit commencer en 2021-2027. Mais les discussions sont difficiles parce qu'il va y avoir le Brexit. Et donc, vraisemblablement, un contributeur relativement important en moins, Et si on veut pouvoir maintenir la politique agricole et puis les fonds structurels, ben, il faudra sans doute augmenter les cotisations des pays membres. Alors ceci dit, quand on dit que l'Europe coûte cher, il faut regarder de près parce que ce n'est pas vrai. Actuellement, c'est 1,04% du PIB. La proposition de la Commission serait de passer à 1,13. Une augmentation, mais enfin, ce n'est pas non plus colossal. Par parenthèse, d'ailleurs, aussi, je dis ça aussi sur le... Quand on dit, oh là là, tous ces fonctionnaires européens à Bruxelles, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils font, il n'y en a pas tant que ça. L'ensemble des fonctionnaires européens, pour 500 millions d'habitants, c'est moins que les fonctionnaires de la ville de Paris et de Rome réunis. Donc il faut situer les choses dans leur juste mesure. En tout cas, bravo pour l'initiative. Après, dans vos propositions, il y a des choses qui sont plus générales sur le projet européen en lui-même, et puis d'autres choses qui concernent plus directement la ruralité.
Merci. Alors, on peut passer à des questions et échanges.
Le nombre de fonctionnaires, bah, je vous ai dit, hein, c'est moins que ceux de la ville de Paris et de Rome réunis. Alors, la ville de Paris, c'est 30 et quelques mille. Rome, je ne sais pas de par cœur, mais ça doit être un peu moins. Donc, ça doit faire, je ne sais pas, 50 000, quelque chose comme ça.
Oui, vous nous avez rappelé tout ce que nous devons à l'Europe et qu'on a un peu tendance d'oublier. En particulier, les 70 années de paix que nous avons vécues après trois guerres terribles. Ce que nous devons à l'Europe aussi, c'est tout ce sens de l'humain qu'elle a essayé de développer à l'intérieur de ses frontières. Mais vous avez dit aussi une phrase qui m'a intéressé et qui parlait de l'avenir. Vous avez dit, si l'Europe ne montre pas le chemin, qui le montrera ? Et moi, qui suis représentant, grâce à Mgr Bouilleret, du service diocésain de l'écologie, je pense que l'avenir, la chose la plus importante pour l'avenir, c'est l'avenir de la planète et de ses habitants. Or, nous savons que l'Europe pourrait faire beaucoup mieux que ce qu'elle fait jusqu'à maintenant. Elle est entravée dans son travail par des forces économiques, financières, techniques, qui l'empêchent de jouer le rôle qu'elle devrait jouer. Or, s'il y a un ensemble au monde qui peut enclencher une sorte de révolution écologique, c'est bien l'Europe, avec ses 500 millions d'habitants, avec ses savants, avec ses chercheurs, avec une banque européenne qui est très riche, quoi qu'on en dise. Et là, il faudrait à tout prix que, lors de nos prochaines élections, nous soyons capables de choisir les hommes et les femmes qui vont représenter cette force énorme que pourrait jouer l'Europe si elle savait se dégager de ces contraintes économiques, financières, technologiques, qui sont ce qu'on peut appeler un petit peu le paradigme néolibéral qui est décrit de façon très active et très vigoureuse par notre pape François dans la magnifique encyclique Laudato Si.
Merci. Alors, je réagis un petit peu. Oui, je pense que l'Europe a encore beaucoup à faire en la matière. En même temps, j'ai cité d'autres puissances de par le monde. Nous sommes moins mauvais que d'autres, hein, de ce point de vue-là. Ben, pas très bon, il y a de la marge de progression, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à la Chine ou par rapport aux États-Unis, nous sommes largement en avance, hein, très 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 largement en avance. Bon, alors après, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut rien faire, mais c'est pour dire aussi que la conscientisation sur ces questions-là est sans doute plus forte en Europe que dans d'autres parties du monde. Alors après, dans votre question ou réaction, il y avait un deuxième aspect autour de l'économie libérale. Donc moi, ce que je voudrais simplement rappeler, c'est que qu'est-ce qui est écrit dans les traités sur l'Union européenne ? Donc c'est l'économie sociale de marché. C'est ça qui est écrit. Et de fait, un des reproches qu'on peut mener aux différentes commissions qui se sont succédées, c'est moins vrai de celle-ci, c'était beaucoup plus vrai de la commission de M. Barroso auparavant, qui, lui, était dans une perspective très libérale et où l'objectif, c'était comment est-ce qu'on maintient une concurrence très ouverte entre les différents acteurs économiques. Et donc, c'est cet aspect de la concurrence qui primait toute chose. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte que ça ne suffit pas, et en tout cas qu'avec la crise financière de 2008 et les conséquences qui en ont découlé en termes de chômage et en termes d'appauvrissement, enfin ou en tout cas de moindre progression de pouvoir d'achat pour une bonne partie de la population, ceci ne fonctionnait plus. et ça l'Église l'a rappelé, la Comessé l'a rappelé à plusieurs reprises, que l'objectif qui est inscrit dans le traité, ce n'est pas la concurrence parfaite, c'est l'économie sociale de marché. Alors il faut préciser qu'est-ce que ça veut dire l'économie sociale de marché, mais ça veut dire assez clairement, je pense, que ce pilier social, il doit pouvoir être mieux mis en valeur. Alors Jean-Claude Juncker, quand il est venu là au mois de mars, il a dit cela aussi. Alors évidemment, il savait à qui il s'adressait. Donc c'est un politique, c'est un homme habile et intelligent. Mais en même temps, je pense qu'il y a chez lui une conviction à ce niveau-là. La difficulté, elle est à la fois d'ordre institutionnel, parce que sur ces questions-là, il faut que les décisions soient prises à l'unanimité. Et donc c'est très difficile quand on est 28 ou 27 États demain. Et ou sinon, elles sont envoyées au niveau national. Voilà. Et donc ça, c'est une des difficultés pour déterminer des directives. Alors sur les questions proprement de développement durable et de protection de l'environnement, il y a un certain nombre de réglementations européennes qui sont faites, mais on voit bien aussi qu'il y a des pays qui freinent. Il y a des pays qui freinent parce que ça va contre leur propre intérêt économique. C'est une conversion de longue haleine. Dans le petit texte là sur le travail dont je vous ai parlé, on a un certain nombre de propositions qui touchent ce qu'on appelle un travail durable. Alors, ce n'est pas exactement répondre à votre question, mais rentrer dans cette logique où on ne laisse pas la responsabilité des problèmes qui existent aux générations futures. Voilà, c'est ça la question.
L'Europe ne va pas très bien. Le projet européen est plutôt malmené, il s'embourbe. Parmi les scénarios possibles, est-ce que vous excluez que l'Europe meure ? Et si l'Europe venait à mourir ?
Toute chose peut mourir, hein. C'est une construction humaine, ça n'a pas les promesses de la vie éternelle. Après, je veux dire, il y a un certain nombre d'éléments qui, moi, me laissent penser que l'Europe ne va pas mourir. Par exemple, le Brexit, c'est un formidable vaccin. Parce que tout le monde voit que derrière des slogans qu'on a lancés comme ça rapidement, où on a mobilisé l'opinion publique, bon, qui s'est retrouvée majoritaire, très bien, les choses n'avaient pas été pensées. Et que les questions qui se posent sont des questions redoutables et qui peuvent entraîner des conséquences très graves, non seulement pour l'économie de la Grande-Bretagne, non seulement pour l'économie européenne en général, mais aussi pour la paix. Voilà. Donc ça, c'est un élément. Deuxième élément qui va un peu dans ce sens-là, les pays d'Europe de l'Est, qui sont souvent très critiques sur le fonctionnement européen, en disant, voilà, bon, ça ne correspond pas à ce qu'on veut, etc. Aucun n'envisage de près ou de loin, y compris les gouvernements populistes, de quitter l'Union européenne. Et inversement, un certain nombre de pays frappent à la porte. Pour l'instant, on dit, bon, stop. Pourquoi est-ce que les pays frappent à la porte ? Parce qu'ils pensent aussi... Il y a un petit exemple, alors c'est pas du tout sur une question directement économique, mais ça montre aussi que le développement humain, il se fait par tout un ensemble de choses. Cet exemple, il a été cité par Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien, qui est venu faire une conférence aux évêques de France au mois de novembre. Et il a dit, prenez deux pays qui avaient à peu près le même niveau de vie en 2004, la Pologne et l'Ukraine. Il y en a un qui est rentré dans l'Union européenne et l'autre pas. Bon, indépendamment du développement, enfin des courbes de PIB, etc. Il a cité un indicateur que moi j'ai trouvé très parlant, c'était la mortalité infantile. Ils avaient le même taux de mortalité infantile dans ces deux pays. Ensuite, la Pologne a rejoint l'Union européenne. La mortalité infantile en Pologne est moitié moindre aujourd'hui que celle de l'Ukraine. Moitié moindre. Voilà. Donc c'est lié à tout un ensemble de facteurs. Hein. Mais c'est pour dire que ce qui nous unit est quand même plus fort que toutes nos divisions. Après, il faut qu'on permette des règles qui permettent de mieux fonctionner. Parce que les règles actuelles, elles ont été établies pour une Europe à 12 et pas à 28. Que forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je pense qu'à terme, il faut qu'on accepte et qu'on arrive à prendre pratiquement la plupart des décisions à ce qu'on appelle la majorité qualifiée, donc qui existe déjà pour certains domaines. La majorité qualifiée, ça veut dire que c'est une double majorité. C'est à la fois une majorité des pays et une majorité de la population représentée. Et cette double majorité, c'est assez intelligent, parce que ça évite que ce soit les petits pays qui imposent quelque chose aux autres, et ça évite que les grands pays n'écrasent les petits. Voilà. Cette idée fait son chemin, on n'y est pas encore, mais, et puis, encore une fois, je veux dire, l'exemple de la Grande-Bretagne, à mon avis, est un contre-exemple parfait. Et il le sera encore plus quand on verra les conséquences économiques de la séparation, alors qui dépendra aussi de quelle sera la relation future entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne après. Mais ça, on ne le sait pas, puisque les Britanniques ne se mettent pas d'accord là-dessus, sur ce qu'ils veulent négocier. Mais simplement sur les indicateurs économiques, c'est évident. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne va voir son niveau de vie baisser, très, très simplement.
Voilà, je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit. J'ai pris beaucoup de notes, sur tout ce que vous avez dit lors de votre conférence. Et je vous avouerai quand même que depuis 1992, à chaque fois qu'on nous a demandé de voter, moi j'ai voté contre l'Europe qu'on voulait construire. À chaque fois, on voulait l'Europe financière. J'avais suivi les arguments de Philippe Séguin à l'époque, j'étais d'accord avec lui, on ne construisait pas l'Europe des peuples, déjà à cette époque-là. Ensuite, en 2004, j'ai voté contre aussi, parce que ce qui nous était proposé, comme vous venez de le dire, c'était aberrant de demander une union à la majorité, mais à l'unanimité. J'ai fait de l'économie, c'était ma formation, et jamais à 28, on ne peut attendre une décision à l'unanimité. C'est inconcevable. Et à mon avis, les politiques avaient qui ont proposé ça, étaient lucides sur le fait que c'était impossible et qu'on se planterait en ouvrant l'Europe. Alors, à mon avis, c'était déjà faussé d'avance. Alors, juste quelque chose, par exemple, on voit, par exemple, par rapport aux paradis fiscaux, que quand on demande un vote à l'unanimité, le Luxembourg et puis l'Angleterre qui ont des paradis fiscaux, votent contre et puis du coup, ça bloque tout. Alors c'est aberrant sur un plan réaliste. À mon avis, c'était truqué d'avance et moi j'avais voté contre. Et puis on voit bien ce que ça donne maintenant. Mais on n'a jamais de reportage, par exemple, sur ce qui se passe dans les pays d'Europe, en Hongrie, en Roumanie. On n'a jamais de reportage là-dessus. Donc on n'a pas voulu construire l'Europe des peuples. Enfin, moi, c'est mon avis.
Bon, alors sur l'Europe des peuples, je suis d'accord qu'elle reste encore largement à construire, mais elle est aussi à travers la manière dont on va rencontrer les autres peuples européens. Par contre, là où je ne vous suis pas, c'est sur ce qui a motivé votre vote négatif sur la Constitution européenne, parce que justement, elle permettait de dépasser largement, pas surtout, mais cette question du blocage. Si on est bloqué, c'est aussi parce qu'on est resté avec les anciennes règles, alors qu'on est beaucoup plus nombreux. Et que si on avait voté oui à la Constitution, il pouvait y avoir d'autres points sur lesquels on peut ne pas être d'accord, mais on aurait mieux résolu la gouvernance des institutions européennes. Ça, je crois, je suis convaincu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, maintenant, on ne revient pas en arrière. Sur la question, pourquoi est-ce qu'on a commencé par l'économie ? Parce que c'est un peu ce qu'a cité tout à l'heure Robert Schuman. Parce qu'on s'est dit que les intérêts économiques, à partir du moment où ils seraient partagés et où ils seraient reliés les uns aux autres, permettraient la construction de la paix et permettraient d'aller plus loin. De ce point de vue-là, même la monnaie commune, l'euro, je pense que l'euro nous a bien protégés dans la crise de 2008. Et que si nous étions, par exemple, nous, restés avec notre franc, nous aurions dévalué massivement et les économies de tous les épargnants auraient complètement fondu. Voilà. Donc là-dessus, je pense que ça nous a largement protégés. Parce que aussi, on voit bien, même si c'est compliqué, mais ça permet aussi, quand il y a un pays qui est en crise, de ne pas complètement le larguer. Regardez même ce qui s'est passé avec la Grèce, qui a été terrible, parce qu'ils ont perdu beaucoup en termes de richesses et donc de revenus, etc. Mais à aucun moment, le gouvernement grec n'a voulu lâcher l'euro. Et pourquoi ? Parce que s'ils revenaient à leur monnaie nationale, ça aurait été bien pire, bien pire. Et en même temps, la crise grecque, même si ça a occupé beaucoup les Européens, n'a pas fragilisé l'ensemble du dispositif. Voilà. Donc, bon an, mal an, c'est quand même pas si négatif que ça, sur ce plan-là. Alors là où je vous rejoins bien, c'est qu'il y a d'autres aspects qu'il faut développer sur les aspects de rencontres culturelles, de rencontres... Et ça, on ne peut pas le faire non plus. Il y a une chose qui fonctionne très bien, alors qui n'est pas stricto sensu de l'Union européenne, mais qui est quand même largement financée par l'Union européenne, c'est les échanges d'étudiants Erasmus. Tout le monde sait ça, tout le monde voit ça. Et bon. Alors, je pense que ce modèle-là, il peut être dupliqué sur d'autres thématiques, il n'y a pas que les étudiants. Pour que les gens se connaissent en Europe et découvrent justement ce qu'ils ont en commun. Et quand on voyage en Europe, y compris dans des pays qu'on connaît moins bien, on est parfois surpris de voir que finalement, il y a à travers l'histoire, à travers la culture, à travers la religion, il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que même dans des pays dont on pourrait se penser plus proche politiquement, économiquement, je pense à l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, où c'est vrai au niveau économique, au niveau etc., mais au niveau de la culture, c'est pas si vrai que cela. Voilà, la mentalité, la manière. On est parfois plus proche de pays. Alors, ce que je découvre aussi au niveau des évêques à la Comécée, ça c'est intéressant, c'est que les évêques des pays d'Europe centrale et orientale, souvent, ils s'expriment en reflétant l'image, l'idée de leur opinion publique ou de leur gouvernement. Et donc, ils sont souvent assez critiques. Et donc, c'est intéressant, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent, mais intéressant de les entendre et d'essayer de comprendre pourquoi ils pensent ça. Qu'est-ce qui fait que, compte tenu de leur histoire, de leur situation, ils pensent que l'Europe n'est pas dans la bonne direction.
Et je pense à un article de Jean-Marc Ferry. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir une chaire de philosophie de l'Europe. C'est lui qui est philosophe et qui tient cette chaire de philosophie de l'Europe à Nantes. Et il a fait un article, je crois que c'est dans les études d'avril, où... c'est un peu compliqué, mais il y avait un point notamment ce qui concerne l'euro. Parce que je voulais vous amener un petit peu sur ce terrain-là, où il dit qu'en gros, l'euro, la monnaie commune, a considérablement avantagé l'économie allemande et que l'euro allemand est incroyablement dévalué, alors que l'euro français est incroyablement surévalué. Oui. Donc, comment faire pour qu'il y ait une sorte de régulation et de partage. Et ça, pour le moment, ce n'est pas gagné. Et je le relis à ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure en ce qui concerne les forces financières et économiques contre lesquelles il y a des choses à faire en ce qui concerne notamment l'écologie. Mais là, je parlais de l'euro, la dimension financière, la résistance aux crises financières, le contrat cyclique et tout ce qu'on veut. Voilà.
Sur l'euro... Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'euro, c'est quand même un compromis entre les différents pays qui ont adhéré à l'euro au départ. Et que pour l'Allemagne, la création de l'euro a été un gros sacrifice. Ils ont renoncé à leur Deutsche Mark, qui était très haut. Et que, voilà, et eux, ils trouvent effectivement que la France et puis d'autres pays latins, on va dire, ne gèrent pas bien leurs finances publiques et ne sont pas très sérieux. Voilà ce qu'ils pensent. Bon, après, alors ils n'ont pas forcément complètement tort, je ne sais pas, mais après, ce que j'ai dit, c'est que heureusement qu'il y avait l'euro quand il y a eu la crise financière, parce que sinon, on partait dans tous les sens. Aujourd'hui, les économies, elles ont aussi des cycles d'adaptation par rapport à la situation mondiale. Il faut se rappeler quand même que l'Allemagne avait, dans le début des années 2000, une situation plus difficile, où il y avait les conséquences de l'absorption de l'Allemagne de l'Est, où il y avait une moindre croissance qu'en France, où il y avait des taux de chômage qui étaient relativement élevés. Et c'est M. Schröder, donc, qui était le chancelier à ce moment-là, qui a fait un certain nombre de réformes assez drastiques qui ont produit des effets très positifs dont a bénéficié ensuite Mme Merkel. Aujourd'hui, je pense que l'économie allemande est un peu plus fragilisée parce qu'elle est très liée à l'exportation et elle est très liée à l'exportation dans des domaines de machines-outils sur lesquels les besoins au niveau mondial ne se font pas sentir de la même façon, en particulier vis-à-vis de la Chine. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une espèce de compétition permanente, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la monnaie, forcément, c'est un élément important de la souveraineté nationale. Et le fait d'avoir mis la monnaie en commun, c'est un élément de partage de souveraineté que nous avons fait. Et ce partage de souveraineté, même la définition des taux de change, enfin, ça a été assez compliqué à faire, parce que ce sont forcément des compromis. Et alors on peut dire que les économies qui étaient plus fragiles, elles ont à la fois été protégées, parce que sinon elles se seraient écroulées, en même temps, il y a eu des conséquences parce qu'un certain nombre de pays ont vu des taux de chômage assez importants. Mais regardez même les pays comme le Portugal, qui a été en forte crise pendant la crise économique, aujourd'hui a très bien repris et a des finances qui sont beaucoup plus saines que les nôtres et un taux de développement qui fonctionne bien. Et je pense que s'ils n'avaient pas été dans l'euro, ils auraient coulé. Hein, voilà. Donc, bon. Tout n'est pas parfait. Hein. Tout n'est pas... Après, ça dépend aussi de la politique monétaire qui est menée par la Banque centrale. Et là-dessus, je dois dire qu'on doit quand même remercier, je pense, M. Draghi, qui a mené une politique intelligente qui n'était pas celle que voulaient les Allemands, parce qu'elle n'était pas assez orthodoxe, mais qui a produit des fruits et qui a permis à l'économie européenne de repartir. Parce que même la France, on a quand même des taux de croissance qui ne sont pas ridicules. Le chômage baisse un peu, mais s'il est si élevé, c'est aussi parce qu'il y a une inadéquation forte entre l'offre et la demande, puisqu'on voit aussi partout des chefs d'entreprise ou des artisans qui recherchent de la main-d'œuvre et qui n'en trouvent pas. Hein, parce qu'il n'y a pas l'adéquation entre... un certain nombre de gens qui n'ont pas du tout de formation et pas du tout de capacité pour remplir un certain nombre de fonctions qui sont nécessaires aujourd'hui. Après, c'est un mouvement beaucoup plus en profondeur, c'est ce qu'on a expliqué aussi là-dessus, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'emplois qualifiés et de moins en moins d'emplois non qualifiés. D'où l'importance d'un effort très important sur la formation hein, et sur l'apprentissage. Là-dessus, on verra ce que ça donne, mais je trouve que le gouvernement actuel, ça ne va pas faire des résultats dans les deux ans qui viennent, mais c'est une œuvre de longue haleine. Dans 10 ans, on en reparlera. Et je pense qu'ils ont plutôt raison de miser là-dessus. Après, on peut discuter des modalités, c'est autre chose.
Oui, moi, ce n'est pas vraiment une question. Je veux dire simplement que je vous trouve beaucoup trop idéaliste. Comme si vous vouliez absolument cacher le fait que l'Europe était... et faisait s'appuyer sur un système économique libéral. Vous n'osez pas dire le mot. Alors, bien sûr, l'article 3 du préambule dit que c'est une économie sociale de marché. Elle continue hautement compétitive. Le social, on ne le voit pas. Mais ce qu'il faut lire, c'est aussi la suite. La suite qui nous parle de concurrence libre et non faussée, c'est bien cette concurrence qui fait qu'on détruit les services sociaux, qu'on détruit hein, les services publics.
Pourquoi est-ce que c'est... Non, attendez, la concurrence ne détruit pas les services sociaux, ça n'a rien à voir.
Si,
la concurrence entre les entreprises.
Il y a un règlement qui dit d'ailleurs que les valeurs de solidarité, que des associations ne peuvent pas se mettre en concurrence avec des activités... Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, par exemple, de faire gratuitement de rendre gratuitement des services qui pourraient concurrencer des gens qui donnent les mêmes services de
c'est
manière payante.
C'est la question d'Airbnb vis-à-vis de l'hôtellerie, par exemple.
Laissez-moi finir. Et donc après, il y a la libre circulation des capitaux, qui est à l'origine de beaucoup de délocalisations, vous le savez bien, ou de paradis fiscaux aussi. Et quand vous appuyez pour dire le Portugal, s'il n'était pas dans l'Europe, etc., il faut voir que le redressement du Portugal a pris Bruxelles à contre-pied, puisqu'ils ont pris des décisions qui allaient à l'encontre de la politique d'austérité qui était demandée, à savoir, ils ont baissé l'âge de la retraite, ils ont augmenté le SMIC de presque 10%, ils ont augmenté la retraite aussi, ils ont arrêté la privatisation des services publics, et ils ont fait beaucoup de choses comme ça qui sont à l'opposé de ce que l'Europe voulait d'eux et de ce qu'elle a demandé aussi, hélas, à la Grèce. Donc je trouve que vous êtes un peu optimiste et que vous cachez le fait que non, on est dans une économie libérale qui a peut-être pour certains des avantages, mais il faut la voir, et elle a beaucoup d'inconvénients, en particulier en ce qu'elle empêche tout le côté social, justice sociale par exemple, et beaucoup de développement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.
Non, je t'en prie.
Ou à moitié d'ailleurs.
Économie libérale, oui, bien sûr qu'on est dans une économie libérale, parce que sinon, qu'est-ce que c'est ? C'est une économie dirigiste. Donc oui, on est dans une économie libérale, mais après, c'est une économie libérale qui a aussi un certain nombre de garde-fous et de contreforts. Là-dessus, je vous invite à relire ce que disait Jean-Paul II dans Centesimus Annus, où il disait cela. Voilà. Après, je ne pense pas que l'économie de marché, puisque c'est ça qui est derrière, empêche la construction d'éléments sociaux. De ce point de vue-là, j'allais dire l'exemple de la France est un exemple assez clair, puisque nous sommes sans doute le pays au monde qui a les transferts sociaux les plus importants. Ça ne nous empêche pas d'être une économie libérale, au sens du libéralisme économique. Après, ce n'est pas dans n'importe quelle condition. Et ça ne vient pas de l'Europe. Ça vient pas de l'Europe. Ça vient de Alors, sur la question des services publics, puisque c'est ça que vous aviez l'air de... Je ne crois pas du tout. Puisque la question de la concurrence là, que vous avez citée, si demain, il n'y a pas... par exemple, les syndicats français sont tout à fait pour que cette concurrence-là soit respectée. Parce que c'est celle qui protège les emplois. Par exemple, si demain toute l'économie est ubérisée, comme on dit, ceux qui ont des emplois dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans les transports, vont perdre leur emploi. Et donc, là-dessus, l'économie, elle est peut-être libérale, mais elle a aussi des règles très précises, et que le respect de la concurrence est une notion qui n'est pas seulement pour baisser les prix, mais qui est là aussi pour protéger les salariés. Et donc, je pense que c'est très important. Si on ne le fait pas, c'est la loi de la jungle, après. Si la concurrence ne compte pas, n'est pas protégée.
Je commence par dire que je suis une Européenne convaincue, que je vais voter...
Mettez votre micro plus près.
Je vais voter parce que je suis une femme et parce que je suis une Européenne convaincue, mais je fais écho aux propos de Manon sur l'amélioration de la ruralité, de la qualité de vie dans les territoires ruraux, comment est-ce compatible avec en France, sur le territoire national, avec la loi Nautré de décentralisation. Comment c'est compatible ?
Ça, ce n'est pas l'Europe.
Hein. Ben non, mais, Manon, elle demande à l'Europe que la qualité de vie dans les territoires ruraux s'améliore. Comment est-ce compatible avec la loi Nautré ? Comment est-ce compatible que la fonction publique soit démantelée sur les territoires nationaux français et qu'il y ait 70 000 fonctionnaires ?
Ça, c'est pas l'Europe qui peut répondre à cette question.
Pourquoi l'Europe fonctionne à 70 000 fonctionnaires et pourquoi en France, l'Europe a quelque part une souveraineté par rapport à certaines règles ? Et comment c'est compatible avec des règles différentes sur les territoires nationaux ?
Non, ce n'est pas des règles différentes. Les règles s'articulent les unes aux autres. Mais ça, c'est des questions qui touchent la politique nationale. Hein. Sur la question de la ruralité, comment est-ce qu'on aide au niveau européen la ruralité ? C'est par à travers les fameux fonds structurels qui vont toucher les régions les plus déshéritées, dans lesquelles, et en particulier les territoires isolés, de montagne, etc., ou les territoires en transformation importante. Donc là-dessus, les pays nouvellement adhérents, arrivés dans les derniers, eux ont profité largement de ces fonds. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Roumanie, tout ça, bon, voilà. Et donc c'est heureux, c'est très bien. En France, ceux qui en bénéficient le plus, ce sont des régions effectivement très, très enclavées, où il n'y a pas beaucoup d'autres ressources, je pense au Massif central, et je pense aussi, nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, nous avons aussi un certain nombre de fonds européens qui parviennent parce que il y a une transformation économique importante, puisque nous sommes passés d'une industrie qui était le charbon, le textile, la sidérurgie, et qui passe à autre chose. Voilà. Donc là-dessus, ça c'est aussi une manière pour l'Europe d'être présente. Donc sur les régions rurales, c'est comme cela qu'elle intervient. Mais sur la politique agricole commune, puisque c'est quand même la France qui en a été aussi largement bénéficiaire, on voit bien qu'un certain nombre de pays européens voudraient baisser la politique agricole commune en disant ça coûte trop cher. Hein, ça coûte trop cher. Et nous, on essaie plutôt de la défendre. Mais voilà, il y a sûrement des transformations. Alors après, moi, je trouve que c'est intéressant de dire que ce qu'il faut plutôt étudier, c'est comment sont versées les aides, hein, sur quelle base. Donc le fait de dire qu'il faut peut-être changer la règle par rapport à l'aide à l'hectare, etc. Donc ça, ce sont des pistes intéressantes, mais qui sont des pistes de réforme interne. Mais sur la ruralité en tant que telle, je vous dis, ce sont les fonds structurels européens qui sont quand même une certaine manne. C'est vrai, mais c'est un problème qui n'est pas facile à... Moi, je vois bien dans les villages, ben, les jeunes, ils partent faire des études ailleurs. Hein, donc après, où est-ce qu'ils trouvent du travail, après, etc. Donc c'est ça les questions auxquelles il faut se poser. Hein.
Nous pourrions débattre encore longtemps, mais nous allons clore comme convenu la soirée. On a d'ailleurs débordé un petit peu. Preuve d'ailleurs que le sujet est passionnant et on voit bien comment les questions internationales, nationales, régionales, locales s'entremêlent toutes. Voilà, donc il faut continuer de phosphorer jusqu'au 26 mai. Voilà, je voulais donc vous réinviter à relire s'il le faut donc la déclaration des évêques de France, à vous en inspirer sur le site internet ou dans la revue Église de Besançon numéro 8.